Est-ce que vous connaissez cet homme ? Non, ce n'est pas François Mitterrand. Mais il y ressemble. Non, non, encore moins. Non, je vais vous donner la solution. Cet homme est un écrivain français du nom de André Gide. Prix Nobel de littérature quand même. Et André Gide a noté le 15 janvier 1929 dans son journal la chose suivante. Il a écrit « La sagesse commence là où finit la crainte de Dieu. Il n'est pas un progrès de la pensée qui n'ait paru d'abord attentatoire, impie. » En formulant cette pensée quelque peu provocatrice, André Gide prend à contre-pied une affirmation de l'Écriture, que voici une parole de Salomon dans le livre des Proverbes, très célèbre, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. » Et c'est une affirmation que nous rencontrons à plusieurs reprises dans l'Écriture. Là, vous avez trois variantes, donc Proverbe 1-7, la crainte du Seigneur est le commencement du savoir. Proverbe 9-10, le commencement, ça c'est la version la plus célèbre, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Mais vous le trouvez également dans un psaume, le psaume 111, et puis aussi dans le livre de Job, donc dans les grands textes de sagesse de l'Écriture. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Comment faut-il comprendre cette affirmation, hein, quelque peu étrange, qui mélange des choses, je dirais, de l'ordre du pratique, la sagesse, et quelque chose qui, à première vue, relève de l'émotion, la crainte, la peur, ou, vu sous un autre angle, quelque chose qui affirme que quelque chose de très terrestre, de très immanent, la sagesse, et l'équivalent en quelque sorte de quelque chose de totalement transcendant, à savoir Dieu lui-même. Et il faut dire que les modernes que nous sommes avons quelques difficultés avec ce genre d'affirmation. Hein, la crainte de Dieu, c'est pas très sexy. Hein, on aimerait mieux parler de l'amour de Dieu ou de ces choses comme ça. Et à l'instar d'André Gide, on pourrait avoir envie de laisser tomber cette affirmation, hein, de la prendre à contre-pied. La crainte, la terreur de Dieu, c'est quelque chose pour les primitifs, hein, pour les tribus de la jungle, mais pas pour les modernes que nous sommes, n'est-ce pas ? Le Dieu de l'Écriture n'est-il pas un Dieu d'amour ? Surtout dans le Nouveau Testament. L'apôtre Jean ne nous dit-il pas que l'amour bannit la crainte ? Donc voilà des questions difficiles qui se soulèvent tout de suite quand on affirme cette maxime du roi Salomon. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Alors, je vous propose, pour bien comprendre, de commencer par l'analyser morceau par morceau, hein, en commençant peut-être par les choses les plus faciles. D'abord, la notion ici la plus intuitive, c'est peut-être celle de la sagesse. Alors, si vous ouvrez un dictionnaire, vous allez trouver que la sagesse, c'est, grosso modo, une manière juste de penser qui permet de vivre de manière juste. Quelque chose qui vous permet, dans la difficulté que nous présente la vie, de faire les bons choix, hein, et d'arriver à bon port. On dira de ça d'un homme sage, mais qu'il a cette capacité-là. Alors, il faut se méfier toujours avec les mots dans l'Écriture, parce que l'Écriture nous vient de loin, d'un temps assez reculé, et les notions ne sont pas forcément toujours les mêmes que celles que nous avons. Il y a parfois un petit effort de traduction à faire. Et en ce qui concerne la sagesse, on n'en est pas trop loin. Il faut peut-être quand même dire que la sagesse, selon l'Écriture, selon l'Ancien Testament surtout, c'est quelque chose d'un petit peu plus large que ce que nous appelons la sagesse. Parce que font partie de la sagesse aussi des choses très pratiques, comme par exemple les sciences. Hein. Le savoir sur le monde pratique, la technologie, pourrait-on dire aussi, pour l'hébreu, ça fait partie de la sagesse. Et également, l'habileté de l'artisan, par exemple. Donc on affirmera, par exemple, que ceux qui ont construit les ustensiles du temple ou du tabernacle, c'était des gens remplis de sagesse par Dieu pour ce travail-là. Ils avaient la capacité de bien faire. Et quelque part, on retrouve la même notion, c'est-à-dire de la capacité à répondre aux défis que la vie nous pose. Donc c'est une notion un petit peu plus large que ce que nous avons en parlant de la sagesse, mais on retrouve quand même, grosso modo, la même chose derrière. Le commencement de la sagesse. Alors ça, c'est déjà un petit peu étonnant. Est-ce que la sagesse a un commencement ? Là, le traducteur, en fait, nous a déjà enlevé une partie du travail. Parce que si vous prenez cette affirmation que je vous ai projetée tout à l'heure, Proverbe 9, par exemple, le mot qui est traduit ici par « commencement » est un mot qui a un sens un petit peu plus large. C'est le mot, d'ailleurs, que nous retrouvons dans le tout premier verset de la Genèse, « au commencement ». C'est un mot qui peut, par exemple, aussi signifier « en principe », ou « fondamentalement ». Mais nous avons la grande chance que dans Proverbe 1,7, que vous ai montré aussi, vous avez aussi le mot « commencement », mais c'est un autre terme hébreu qui est utilisé. Et si vous regardez ce que ces deux termes hébreux ont en commun, effectivement, on arrive à la notion de commencement au sens temporel. Donc, la traduction « commencement » est certainement juste, et ce qui est visé ici, c'est ce qui est au départ de la sagesse. Celui qui craint Dieu, il fait le premier pas vers la sagesse, pourrait-on dire. Si vous voulez devenir sage, vous devez craindre le Seigneur. C'est ça l'idée qui est exprimée. Alors, le Seigneur. Bon, vous voyez, il n'y a pas le mot Seigneur. Je dis Seigneur, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Alors, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais ça vaut la peine peut-être de le répéter. Le terme qui est utilisé dans les textes, c'est le nom propre de Dieu. Le nom dont il a dit que c'était son nom à lui. Et personne d'autre porte ce nom. Ce n'est pas le mot Dieu ou Seigneur, mais c'est son nom propre. Mais comme vous le savez, les Juifs avaient beaucoup de respect pour ce nom. Et peut-être même une crainte quelque peu superstitieuse, au point qu'il ne prononçait plus du tout. Et du coup, on ne sait pas comment le prononcer, parce qu'en hébreu, vous écrivez que les consonnes, vous n'avez pas les voyelles, vous ne savez pas comment le prononcer. Et donc, il y a des gens qui disent qu'il faudrait prononcer Yahweh. C'est possible, mais ce n'est pas certain. Il y a des gens qui disent qu'il faut dire Yehovah. On sait que c'est faux. Mais on ne sait pas quelle est vraiment la prononciation, et ce n'est pas si important que ça. Mais en tout cas, quand les Juifs lisent un texte où apparaît ce nom, qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien, ils disent Adonai, ce qui veut dire mon Seigneur. Ou parfois, vous les entendrez dire Hachem, ce qui veut dire le nom. Et donc, je fais comme eux, c'est-à-dire, je remplace. Quand je tombe sur ce mot-là, je dis Seigneur. Mais il faut savoir que ce qui est visé ici, c'est le Dieu d'Israël. Un Dieu unique, précis, qui porte un nom. Ce n'est pas la crainte du divin ou la crainte de Dieu dans l'absolu. Toute crainte d'une divinité ne remplit pas le critère ici. Ce qui est visé ici, c'est réellement le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous arrivons au mot qui fait peur, le mot crainte. Alors, quand on lit la crainte du Seigneur, on aurait envie d'aller voir dans le dictionnaire hébreu et dire est-ce que ça veut vraiment dire crainte ? Et puis, la réponse est oui. C'est le mot qui veut dire crainte. Vous pouvez aussi parfaitement traduire peur ou terreur. Et il y a des textes dans l'Écriture où on le traduit de cette manière-là. En même temps, je vous ai dit, on est un petit peu mal avec la notion de peur de Dieu, ou même le mot crainte de Dieu, ça fait un petit peu peur. Et il y a des études assez costauds qui ont été faites, moi j'en ai deux au moins, par des savants qui ont examiné tous les textes de l'Ancien Testament où on parle de cette crainte de Dieu. Un moine allemand, 200 pages quand même, un abbé français, 300 pages, et même après avoir lu ces ouvrages, on reste un peu sur sa fin. Qu'est-ce que ça veut dire, la crainte du Seigneur ? Alors, je n'ai pas la prétention ici de vous montrer tout ce que ces gens-là ont pu trouver. C'est assez complexe, pour tout vous dire. Mais je vais entreprendre une étude un peu moins ambitieuse, parce que ce texte-là se trouve dans les Proverbes. Alors je me suis dit, si Salomon parle de ça, peut-être il nous donne d'autres indices pour savoir ce qu'il faut comprendre par là. Une chose est certaine et ressort de ces études-là, c'est que l'expression « crainte du Seigneur » est une expression toute faite. Ce qui veut dire que si vous voulez comprendre ce qu'elle veut dire, vous ne pouvez pas vous contenter de regarder les mots qui la constituent. Il faut chercher où elle apparaît telle qu'elle pour comprendre ce qu'elle veut dire. Pour vous donner un exemple, une expression française, « faire chanter quelqu'un ». Hein? Faire chanter quelqu'un, c'est exercer une pression sur lui, en le menaçant peut-être de révéler quelque chose sur lui. C'est une expression toute faite. Vous la connaissez tous, parce que vous connaissez la langue. Il ne suffirait pas pour quelqu'un qui ne sait pas ce que ça veut dire d'analyser les mots qui la constituent. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire faire? Qu'est-ce que ça veut dire chanter? Et puis maintenant, je sais ce que ça veut dire. Ça ne va pas vous aider. Il faut chercher les textes dans leur contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-être, vous pouvez capter finalement le sens, si vous lisez un grand nombre de textes où cette expression apparaît, vous pouvez peut-être capter le sens de l'expression. On travaille un petit peu comme dans cette fameuse histoire soufie, voyez-vous, où des hommes examinent un éléphant dans le noir, et chacun trouve un petit bout, et il faut vraiment rassembler tous ces éléments-là, celui qui a touché la jambe, celui qui a touché la trompe, et puis si vous rassemblez tout ça, vous avez une image qui peut être assez juste. Et c'est ça le travail du bibliste, et ça le travail que tout homme qui veut bien comprendre la Bible doit effectuer de temps en temps pour bien capter le sens d'une telle expression comme celle de la crainte du Seigneur. Alors, j'ai examiné les textes que j'ai trouvés dans les Proverbes et j'ai trouvé grosso modo 4 constats. On peut déjà voir le premier. Le premier, c'est que la crainte du Seigneur est quelque chose qui est lié à la connaissance de Dieu. Proverbe 1:29, ils ont détesté la connaissance, ils n'ont pas choisi la crainte du Seigneur. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise quelque chose d'assez fondamental. Ce qui nous aide beaucoup dans cette étude, c'est la manière dont les Hébreux aimer s'exprimer. Et quelque chose que vous trouvez constamment dans l'écriture, notamment dans la poésie, dans les psaumes, mais aussi dans les proverbes, et quelque part dans tous les textes, parce qu'ils raffolaient de ça, c'est ce qu'on appelle des parallélismes. C'est-à-dire, ils aimaient beaucoup dire des choses en les disant deux fois, avec des petites variantes. Alors, vous trouverez constamment des expressions de ce type. Par exemple, je pourrais dire, en tant que poète hébreu, « Je m'incline devant le Très-Haut, je me prosterne devant le Tout-Puissant. » Donc je dis deux fois, enfin c'est pas exactement la même chose, mais j'exprime deux fois à peu près la même chose, et ils font constamment ça. Et pour nous, c'est très utile parce qu'en examinant ces parallélismes, nous allons trouver des choses qu'ils considéraient comme plus ou moins équivalentes. Et ici, la connaissance et la crainte du Seigneur, et c'est encore beaucoup plus net, Proverbe 2:5, mon fils, si tu reçois mes paroles, alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la connaissance de Dieu. Là, vous avez un très beau parallélisme, et pour l'auteur de cette maxime, la crainte du Seigneur, ça a trait à la connaissance de Dieu. Et c'est très intéressant parce que ce premier constat vous éloigne déjà d'une compréhension simpliste qui dirait, c'est la peur de Dieu. C'est la terreur que Dieu peut susciter chez les hommes. Et on voit ça dans l'Écriture par ailleurs. Quand les hommes rencontrent Dieu, ils sont comme anéantis. Et on le comprend. Ils ont la frousse. Mais ce n'est pas ça que vise avant tout l'expression « crainte du Seigneur » parce qu'elle a cette composante de connaissance. C'est quelque chose qui est lié à une connaissance de Dieu. Deuxième constat, et ça en découle un petit peu, il y a un rapport entre la crainte du Seigneur et l'humilité. Proverbe 15:33. La crainte du Seigneur est l'éducation à la sagesse. L'humilité précède la gloire. Alors là, on voit déjà que la crainte du Seigneur, c'est pas seulement le départ de la sagesse, mais c'est toute une éducation à la sagesse. Donc on peut penser que même celui qui entre sur cette voie de la crainte du Seigneur, il ne va pas l'abandonner tout de suite, il va l'accompagner, il va l'éduquer. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel, cette crainte du Seigneur. Mais ici, ce qui m'a intéressé, c'est ce parallélisme avec crainte et humilité, et c'est encore beaucoup plus net en Proverbe 22,4, la récompense de l'humilité, de la crainte du Seigneur, c'est la richesse, la gloire et la vie. Donc ici, on met vraiment en parallèle l'humilité et la crainte du Seigneur. Celui qui craint le Seigneur, il est humble. Non seulement il connaît Dieu, mais il est humilié par cette connaissance. Et ça, c'est quelque chose que, pour tout lecteur de la Bible, ce n'est pas une surprise. Si vous connaissez qui Dieu est, dans sa splendeur, dans sa magnificence, dans sa pureté, dans sa sainteté, et si vous savez qui vous êtes, dans votre misère de tous les jours, dans votre petitesse, vous ne pouvez être que humilié, vous ne pouvez être que humble. Troisième point, et ça c'est très massif dans les proverbes, c'est d'ailleurs curieux, j'ai l'impression qu'on ne voit pas tous les textes, mais peu importe. Vous avez l'affirmation que la crainte du Seigneur, c'est quelque chose qui se voit dans la vie, c'est quelque chose qui se manifeste dans les actes. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains le Seigneur, écarte-toi du mal. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui s'écarte du mal. C'est en s'écartant du mal qu'on craint Dieu. Par la bienveillance et la fidélité, la faute est expiée. Par la crainte du Seigneur, on se détourne du mal. Même idée. La crainte du Seigneur, Proverbe 8,13, la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. C'est quand même fort comme affirmation. Et puis les deux que vous ne voyez pas, que ton cœur ne soit pas jaloux des pécheurs, qu'il soit dans la crainte du Seigneur, du matin au soir. Et puis, Proverbe 14,2, celui qui marche droitement craint le Seigneur, celui dont les chemins sont sinueux le méprise. Donc vous avez vraiment cette affirmation massive dans les Proverbes, que celui qui craint Dieu, il se détourne du mal, et il se tourne vers le bien, il cherche la droiture. Alors, ça c'est important parce que, voyez-vous, si vous ne restez que sur la notion de connaissance de Dieu, et même de l'humilité, vous pouvez à la limite arriver à une conclusion de que c'est quelque chose d'intellectuel, la crainte du Seigneur. Or, ce n'est pas le cas. Vous pouvez avoir une bonne connaissance de Dieu, vous pouvez être diplômé des meilleures facultés de théologie de ce monde, avoir une bonne compréhension de l'Écriture, et à côté, vivre comme un porc. Or, si vous faites ça, vous avez peut-être une certaine connaissance de Dieu, mais vous n'avez certainement pas la crainte du Seigneur. Enfin, il y a toute une série de versets qui nous donnent les bienfaits de la crainte du Seigneur. Mieux vaut peu avec la crainte du Seigneur qu'un grand trésor et les troubles qui vont avec. Ou encore, dans la crainte du Seigneur réside une forte confiance. Pour ses fils, elle sera un abri. La crainte du Seigneur est une source de vie. Et ça, c'est affirmé encore à plusieurs reprises. Là encore, vous ne voyez pas tous les versets que j'ai trouvés. La crainte du Seigneur prolonge les jours. Les années des méchants sont courtes. Proverbe 19,23. La crainte du Seigneur mène à la vie. Proverbe 22,4, la récompense de l'humilité, de la crainte du Seigneur, on l'a déjà vu celui-là, c'est la richesse, la gloire et la vie. Donc, celui qui craint le Seigneur, il cherche le bien, il évite le mal, et cette attitude se voit récompensée. Et là encore, on retrouve en fait un grand classique de l'Écriture, à savoir que à celui qui s'engage sur ce chemin-là, la vie lui est promise. Moïse l'avait déjà affirmé et d'autres textes de l'Écriture le font pareillement. Donc, si je résume, on pourrait dire la crainte de Dieu, telle qu'elle apparaît dans les Proverbes, c'est quelque chose qui a une dimension de connaissance de Dieu, elle a trait à la connaissance de Dieu. C'est une connaissance qui rend humble, mais elle a aussi une forte dimension éthique, pratique, Elle se montre dans le comportement, par un comportement qui recherche la justice, qui déteste le mal, et à celui qui craint Dieu de cette manière-là, la vie lui est promise. Donc, nous pouvons donc revenir à notre sujet de départ. Non, il faut continuer. Encore, voilà, c'est beau. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Salomon nous dit que si vous voulez devenir sage, il faut vous engager sur cette voie. Il faut chercher cette crainte de Dieu, et en adoptant cette crainte du Seigneur, vous vous engagez sur une voie qui vous mènera à la vie. Elle est le commencement de la sagesse, c'est le départ sur un chemin qui vous mènera loin. Ça harmonise assez bien avec le reste de l'Ancien Testament, mais on pourrait se dire, n'est-ce pas une drôle de manière de présenter les choses? Parce que si je reviens à la formule de Salomon, il parle quand même de la crainte du Seigneur. Et c'est comme une notion quelque peu négative. Est-ce qu'il n'aurait pas dit les choses un peu mieux? Ça nous aurait gêné moins. Vous savez, dans nos traductions de la Bible, parfois les gens écartent complètement la notion de crainte. Si vous prenez la traduction du Semeur, je connais bien les gens qui ont travaillé dessus, et je les apprécie, mais ils ont évité ce mot de crainte de Dieu. Et ils l'ont remplacé par une expression que je trouve absurde. Ils parlent de vénérer Dieu. Or, s'il y a une mauvaise traduction, c'est bien celle-là, parce qu'on traduit un mot compliqué par un mot qu'on n'utilise plus. Vénérer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez dans la rue, vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous dites « je te vénère », il va vous dire « mais tu parles verlan ou quoi ?» Ça ne veut rien dire. Peut-être en anglais, ça veut dire quelque chose, mais en français, il me semble que c'est un mot totalement obsolète. Donc une traduction comme ça, moi, je trouve, le traducteur aurait mérité un coup de bâton. Mais ça reste entre nous. Il n'empêche. Pourquoi Salomon n'a pas trouvé un autre mot? Je vous ai dit, il y a une dimension de connaissance de Dieu dans la crainte du Seigneur. Alors pourquoi il a dit la connaissance de Dieu est le commencement de la sagesse? Ça aurait été tellement plus sympa. Mais voyez-vous, en parlant de la connaissance de Dieu, j'ai déjà signalé que vous courez un risque, c'est-à-dire de croire que c'est quelque chose de purement intellectuel. Or, nous l'avons vu dans l'esprit de Salomon, la crainte du Seigneur, c'est quelque chose qui se manifeste dans la vie. C'est la recherche du bien, la horreur du mal. Si vous restez à la connaissance de Dieu, peut-être vous pouvez louper cette dimension-là. On pourrait dire, oh, d'accord, on ne va peut-être pas mettre connaissance, mais on pourrait peut-être dire amour de Dieu. C'est tellement mieux que crainte de Dieu. C'est vrai, d'une certaine manière. On aurait aimé qu'on parle de l'amour de Dieu, mais je crois que, finalement, ce n'est pas très juste de dire l'amour de Dieu est le commencement de la sagesse. Parce que, voyez-vous, si vous regardez votre histoire à vous, si vous êtes des croyants, ou si on regarde l'histoire, notre histoire collective, le départ dans la sagesse, cette voie qui mène à la vie, ce n'est pas l'amour de Dieu. Le jour où vous êtes entré sur cette voie-là, ce n'était probablement pas l'amour de Dieu, votre premier sentiment. Quand l'homme réalise qui est Dieu, quand l'homme réalise qu'il est lui-même, et quand il voit cet énorme écart qui s'ouvre, cet abîme qui nous sépare de Dieu, cette profondeur dans laquelle nous a plongé le péché, que ce mal s'est logé au plus profond de nous, atteint chaque manifestation de notre être, notre volonté, notre intelligence, nos émotions, tout est en quelque sorte pollué par ce mal. Quand vous voyez ça, quand vous voyez l'exigence du Dieu saint, la réaction naturelle, c'est la crainte. Ce n'est pas tout de suite l'amour de Dieu. Heureusement, après, il y a la bonne nouvelle, mais l'Évangile nous apporte, me semble-t-il, d'abord et nécessairement, une mauvaise nouvelle. Et vous ne pouvez pas la laisser de côté. Ce n'est pas là ce que c'est le moment. Donc je pense que c'est parfaitement justifié de dire le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Hein? L'amour, à sa place, moi je dirais, l'amour de Dieu, c'est l'accomplissement de la sagesse. Hein? C'est sur ce chemin-là que vous menez. Mais je dirais chronologiquement, ce qui précède cet amour, me semble-t-il en tout cas, c'est la crainte. Et il est parfaitement justifié, me semble-t-il en tout cas, de parler de la crainte du Seigneur comme commencement de la sagesse. Alors, est-ce qu'on peut maintenir aujourd'hui cette affirmation de Salomon ? Il y a des gens qui pensent que non. Et ici, je vous cite un des plus grands génies que ce monde a jamais connu, hein, un certain saint Augustin, un très grand penseur. Et il a tracé une voie qui est parfois encore affirmée aujourd'hui. Vous pouvez entendre des gens dire la crainte, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'amour. Et saint Augustin, avec le génie qui le caractérise, il a dit les choses. Je vous ai donné ici une citation. Hein. La crainte et l'amour, telle est en effet dans toute sa constitution la différence qui sépare les deux testaments. La crainte était le partage de l'homme ancien, l'amour est le privilège de l'homme nouveau. Hein. Et comme il a le don des formules hein, qui claquent, hein, il dit Timor et Amor. Hein. Timor, la peur, la crainte, c'est l'Ancien Testament. Amor, c'est le Nouveau Testament. Hein. C'est séduisant. Et il y a, je crois, quelque chose de vrai dedans, mais il faut quand même dire que c'est une caricature. Pourquoi ? Parce que si vous prenez vos Bibles, prenez une concordance, et vous cherchez la crainte de Dieu, alors vous trouvez quantité de textes dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes notamment, je vous ai fait la preuve, vous trouvez aussi ailleurs, de la Genèse jusqu'au bout. Vous allez dans le Nouveau Testament, est-ce que vous la trouvez ? La réponse est oui. Vous trouvez des textes qui parlent de la crainte de Dieu. Hein? Jésus lui-même, il parle à ses disciples, à ses 12, pas aux pharisiens. Il leur dit, en évoquant les persécutions à venir, il leur dit, ne craignez pas ces gens-là qui peuvent vous tuer, craignez plutôt celui qui peut vous jeter en enfer. Hein? C'est quand même fort de tabac de dire ça. Et encore une fois, il dit ça à ses 12. C'est quand même pas rien. Après, vous avez des textes, comme dans les Actes, où il nous est dit que la jeune Église vivait dans la crainte du Seigneur. Intéressant. Vous avez des affirmations de Paul, de Pierre. Je ne vais pas toutes les citer. Il y en a des dizaines. Et dans l'Apocalypse, dans un des tout derniers chapitres, hein, on lit une invitation à la louange. C'est Apocalypse 19, verset 5. Du trône sortit une voix qui disait « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Donc, dire que cette notion disparaît du Nouveau Testament, ce n'est tout simplement pas juste. Ceci étant dit, il faut quand même dire une chose, c'est que c'est une notion qui est beaucoup moins présente dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Dans l'Ancien texte, vous avez quantité de textes qui évoquent la crainte du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, il y en a, mais quand même beaucoup moins. Et ça, c'est intriguant. Et là, on peut comprendre quelque chose, me semble-t-il. Et il y a d'ailleurs un texte qui m'est très cher, dans l'Épître aux Hébreux, que nous avons déjà cité aujourd'hui. Je vais vous le dire, parce qu'il montre aussi un certain contraste entre les alliances. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas qui c'est, mais en tout cas, il présente les deux alliances en évoquant deux montagnes. Et la montagne qui caractérise l'ancienne alliance, c'est clair, c'est le Sinaï. Vous verrez. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés en effet de choses palpables, ni d'un feu ardent, ni d'une obscurité, ni de ténèbres, ni d'une tempête, ni d'un son de trompette, ni d'une clameur de paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus. Car ils ne supportaient pas cette injonction qui touche à la montagne, et même une bête sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous êtes approché de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de dizaines de milliers d'anges, de leur réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu juge de tous, des esprits de juste portée à leur accomplissement, de Jésus le médiateur d'une alliance neuve et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vu sous cet angle, il est bien certain que la nouvelle alliance est nettement moins anxiogène, pourrait-on dire, que l'ancienne. Je vous ai dit que la crainte de Dieu n'est pas totalement absente des textes de Nouvelle Alliance, mais elle est moins. Tu peux en continuer. Elle est moins présente. Est-ce qu'il faut maintenir cette affirmation de Salomon, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur? Est-ce qu'il faut la maintenir? Nous qui sommes des hommes et des femmes de la Nouvelle Alliance, est-ce que nous pouvons affirmer cela? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il n'y a rien qui s'y objecte. Je pense que toutes les dimensions que nous avons vues dans le livre des Proverbes s'appliquent encore. Je pense que nous sommes toujours invités à la connaissance de Dieu. Et cette connaissance nous humiliera toujours. Nous sommes aussi invités à faire le bien et à haïr le mal, sans aucun doute. Et nous avons toujours cette promesse de la vie. Et peut-être les choses, si on a vu un certain changement entre les alliances, un changement de langage, peut-être pourrait-on changer le langage. Pas pour évacuer les notions, mais pour les mettre à jour en quelque sorte. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, qui prend un petit peu le relais de la notion de la crainte du Seigneur? Je vous l'ai dit, elle est présente, mais elle n'est pas aussi fortement présente que dans l'Ancienne Alliance. Et j'ai trouvé. Maintenant, je m'avance parce que je l'ai lu nulle part, et ça vient de moi, et c'est peut-être complètement à côté de la plaque. Mais je me suis dit, au fond, est-ce que l'équivalent de la crainte du Seigneur, de cette expression, ne se trouverait pas dans la foi? Parce que la foi aussi, elle véhicule cette notion de la connaissance de Dieu. Et parfois, on parle même de la foi dans un sens objectif, le contenu de la foi. La foi ne peut pas exister sans ce contenu, sans quelque chose, une connaissance de Dieu. Pour pouvoir croire en Dieu, il faut savoir certaines choses sur lui. Vous trouverez aussi dans la foi, telle qu'enseignée par l'Écriture, cet élément qui nous rend humbles. Si vous avez compris le message de l'Évangile, vous allez comprendre que vous êtes peu de choses et que tout est grâce et que Dieu est parfait et que Dieu fait tout pour nous. Vous avez aussi dans la foi, selon l'Écriture, cette dimension éthique, à savoir que vous ne pouvez pas croire et vivre n'importe comment. Et comme le dit Jacques, la foi sans les œuvres, elle est morte. Ce n'est pas une foi. Si vous avez une connaissance de Dieu et vous vivez comme un porc, c'est que vous n'êtes pas un croyant. En tout cas, pas au sens que donne l'Écriture à ce mot. Et puis, à la foi aussi est promis la vie. Donc, je me suis dit, si Salomon revenait aujourd'hui, s'il avait vécu aujourd'hui, peut-être il aurait écrit ce commandement, enfin cette maxime différemment. Peut-être aurait-il dit, le commencement de la sagesse, c'est la foi en Jésus-Christ. Il me semble qu'on pourrait le défendre, mais comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'adopter cette idée qui m'est venue. Quoi qu'il en soit, ma prière pour moi-même et pour vous, c'est que notre vie soit marquée davantage par cette crainte de Dieu. Que notre connaissance du Seigneur aille en approfondissant. Que Dieu nous rende humbles, qu'il nous aide à détester le mal et à faire le bien. Bref, qu'il nous offre ce commencement de la sagesse qui nous permettra de trouver cette vie qu'il nous promet. Amen.